En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques, à l'initiative de l'académicien Jean Bechler, a organisé un colloque international sur le thème de la guerre et de la société. C'était le 17 et 19 janvier 2013, grâce au soutien de la Fondation Simone et Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France. Une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème spécifique, cette année, de la guerre et de la politique, le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean-Pierre Bois, professeur à l'Université de Nantes. Son intervention s'intitule « Le concert des nations au XIXe siècle ».
Je vous remercie. Je vais faire un petit peu le lien avec le propos de M. Contamine. En occupant aussi l'espace de l'époque moderne, vous allez voir un peu. Hein, et je vais me placer à un niveau ou un point de vue ou avec un regard qui n'est finalement pas exactement celui de la guerre, mais celui de l'objectif avec lequel on fait toutes les guerres, c'est-à-dire celui de la paix. Car on ne fait pas la guerre pour la guerre, on fait la guerre pour avoir un résultat, c'est la paix. Et en réalité, c'est pourquoi le mot « le concert des nations » me convient parfaitement. Hein. L'objectif du concert des nations, cette réunion des diplomates, des États, de leurs représentants, dans une assemblée quelconque où l'on discute ensemble, hein, l'objectif, c'est bien d'élaborer des moyens de paix. Alors, c'est pour le XIXe siècle que cette expression, le concert des nations, a été employée, sous différentes formes. Et je vous avoue, même si ça peut être objet de débat, je préfère ne pas les distinguer les unes des autres. Il y a le concert des nations, le concert des peuples, le concert des États, le concert de l'Europe, le concert européen. Et j'ai constaté dans les différents ouvrages que j'ai fréquentés qu'on utilise souvent l'une ou l'autre des expressions sans chercher à s'intéresser au second mot de l'expression. Et on retombe sur le premier mot, le concert. Sur l'origine duquel il n'y a aucun doute, le mot concert vient de l'italien concerto. Il apparaît dans la langue française dans le courant du XVIe siècle. Il est employé déjà au XVIIe siècle avec un sens, au moins pour les occurrences que j'en ai trouvées, militaire, mais non politique. On voit le concert des généraux qui s'interroge sur la guerre en train de se dérouler. Mais on ne voit pas le mot employé pour désigner les rencontres de diplomates, ce qui est le sens du mot au XIXe siècle. Dans le sens du XIXe siècle, et c'est pourquoi quand on parle du concert, il faut parler du XIXe siècle, je dois dire que, mais vous me corrigerez si je me trompe, moi je fais partie des historiens qui prétendent ne pas avoir tout lu, la première véritable occurrence où je vois employer le mot concert au sens du mot XIXe siècle, c'est en 1791, lorsque l'empereur, donc c'est tardif, hein, lorsque l'empereur Léopold II, qui vient de monter sur le trône puisque Joseph II est mort, hein, veut réfléchir avec les autres puissances européennes sur ce qu'il convient de faire devant les désordres apportés à l'ordre westphalien de l'Europe par les troubles, le discours, l'expansion idéologique des idées de la Révolution française et par le désordre des armes qui s'annoncent. Donc, avant 1792, Léopold veut réunir un ensemble de diplomates représentant des souverains à Reichenau, hein, et cette réunion ne donnera rien du tout que la déclaration de Pilnitz. Elle est interprétée au moment où elle se déroule par Dumouriez comme la volonté de préparer une guerre et non pas celle d'empêcher des guerres. Le mot a été récupéré, en gros, à partir de 1815, à l'époque du Congrès de Vienne. Alors, je ne vais pas vous dire une date précise, en 12, en 13, en 14, en 18. Le mot apparaît dans le langage courant du XIXe siècle, avec son sens qui est toujours le même. C'est le sens du mot allemand « concert ». C'est une réunion ensemble d'un certain nombre de personnes qui cherchent à parler d'un même ton, hein, L'autre mot allemand pour désigner concert, c'est Zusammenklang. Hein. Il s'agit de ensemble d'avoir la même sonorité, le même éclat, la même parole. Donc des diplomates se réunissent et ensemble cherchent à faire la paix. C'est donc de cette manière de faire la paix au 19e que je souhaite vous parler. Mais je dois vous avouer que j'ai là une difficulté, vous en conviendrez. C'est que quand on regarde la bibliographie qui a été écrite sur les relations internationales au 19e siècle, jusqu'au dernier livre de M. de Sédouis sur le Concert des Nations, qu'est-ce que je peux apporter de plus, moi, qui ne suis en plus qu'un historien moderniste, vous le savez, hein. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? C'était de lever un peu mon regard. Je ne vais pas vous faire l'histoire des différents congrès qui, au cours du 19e siècle, ont tenté de réajuster l'équilibre européen pour maintenir la paix. Je vais situer cette histoire dans un cadre beaucoup plus large. Et c'est là que je vais remonter, d'abord à la période qui est entre l'époque médiévale et celle du 19e siècle, en me disant les grands moments et les grandes formes sous lesquelles on a tenté d'élaborer une paix européenne ont généralement été les lendemains des grandes guerres. Quand je dis des grandes guerres, je veux dire des grandes guerres, pas des petites. Et par petites guerres, j'entends des guerres qui n'ont opposé que 2, 3, voire 4 États. Par grandes guerres, j'entends ces quelques conflits généraux, ces mélanges de toutes les nations, de tous les États et de toutes les armées d'Europe, dans des conflits longs et très destructeurs. Nous n'en avons pas eu tant que cela dans notre histoire. Alors je n'en parlerai pas pour l'époque médiévale, et je ne vais pas mettre dans la liste, M. Contamine le fera peut-être, ou me dira que j'ai eu raison de ne pas le faire, je ne vais pas mettre la guerre de 100 ans, qui s'apparente au système médiéval. Mais la guerre de 30 ans, pendant 30 ans, tous les peuples de l'Europe, on les trouve représentés au congrès de Salis, hein, se font une guerre qui a engendré de tels malheurs qu'elle a provoqué une véritable crise de conscience européenne. Le même événement, mais sous des formes très différentes, se reproduit à peu près un siècle et demi plus tard avec le système de guerre napoléonien, révolutionnaire et napoléonien. Toute l'Europe est parcourue au pas des armées, pas uniquement des armées françaises, hein, et avec un tel champ d'horreur et de dévastation, amplifié peut-être par la propagande, hein, mais les gens disent ce qu'ils ressentent, que, comme en 1648, au terme de ces presque ce quart de siècle de conflit, on essaye de trouver un moyen d'avoir enfin une paix durable. Et puis le même événement se reproduira au XXe siècle, qui lui échappe à mon histoire, puis je ne suis pas du tout un contemporaniste. Avec les 30 années de guerre, tout aussi effroyables, mais à une autre échelle, parce que le monde a changé, le volume du monde a changé, et les moyens de la guerre ont changé, qui se produit entre 1914 et 1945, que je considère comme un tout, au terme desquels, c'est pareil, choc sur les consciences, devant les reculs d'humanité. Les civilisations ne supportent pas cela. Alors, on tente de mettre en place de nouveaux moyens de la paix. C'est dans cette histoire longue que se situe le 19e siècle, qui, donc, a des modèles, ce qui a été fait avant. Il y a une sorte, je ne sais pas si je devrais dire, de généalogie ou d'archéologie des moyens de la paix. Je vais les évoquer très globalement, très superficiellement. On pourrait rentrer dedans après à l'occasion d'un débat. En gros, s'il y a des guerres, c'est qu'il y a des souverains qui se font la guerre. Ou des États, ou des nations. Oui, je ne veux pas distinguer les mots. Là, j'ai peut-être tort, mais enfin, c'est ma position. Pour arriver à la paix, et une paix que tous les théoriciens qualifient toujours de la même manière, des mots qui sont très très fragiles pour l'historien, à défaut du simplement durable ou général qui me conviendrait, les théoriciens parlent souvent de paix perpétuelle ou universelle. Ça, le perpétuel en histoire, on le cherche vainement. Néanmoins, il y a des moyens. Le premier qui se soit imposé à l'ensemble, on va dire, de l'espace européen, un petit peu à l'époque où l'Europe était l'échelle du monde, ou alors où le monde était à l'échelle de l'Europe, hein, c'est l'idée de réunir toutes les couronnes de l'Europe en un seul État, un seul souverain, qu'il y ait une sorte de monarchie unique, universelle. Elle ne peut pas se faire la guerre à elle-même. C'est une version qui a connu différents costumes, du vieux mythe unitaire tiré de l'époque romaine, qui, à l'époque médiévale, est encore le mythe impérial, qui existe toujours au XVIe siècle, sans être exactement formulé par des théoriciens, hein, mais qui existe plutôt dans les faits, et qui pourtant d'ailleurs est conflictuel, bien que naturellement pacifique, c'est l'unité de la monarchie universelle. On peut considérer qu'au XVIe siècle, ça n'est pas entièrement artificiel, hein, l'empereur Charles Quint est le dernier empereur qui incarne un peu ce mythe d'une monarchie universelle. Non pas parce qu'il est lui comme homme, il a 36 langues, il a 36 états, tous différents, qui ne se mélangent pas, les Espagnols ne sont pas des Allemands, les Allemands ne sont pas Italiens, qui eux-mêmes ne sont pas des Flamands, mais sous son autorité unique, par ses quatre héritages, il rassemble toutes les couronnes. Et en plus, grâce aux conquistadors, il s'en va récupérer des terres encore, une couronne de plus, des couronnes de plus, jusqu'en Amérique. Sur l'empire de Charles Quint, vous le savez, hein, le jour existe tout le temps, la nuit ne tombe jamais. Hein. Une monarchie universelle. Cette monarchie universelle aurait comme effet théorique qu'à l'intérieur de son espace, il n'y ait plus même de conception possible de guerre. Malheureusement, d'abord, elle n'est pas vraiment universelle, puisqu'il manque au moins à Charles Quint, au cœur de l'ensemble de ses terres, l'infernale couronne de France, de François Ier, qui lui-même était, vous le savez, candidat à l'Empire en 1519 et qui n'a pas été élu, hein, et qui, entre 1515 et 1519, 1515 et 1518 plus exactement, tente également de proposer un modèle de paix en réemployant à son propre compte les mots illusoires de perpétuel ou d'universel. La paix perpétuelle avec les Suisses, c'est quand même lui qui l'a signée. La paix perpétuelle de la France avec la papauté, c'est le concordat de Bologne. Hein, il l'a signée et c'est des perpétuités qui ont duré 300 ans. Alors ça, à l'échelle de l'histoire, c'est une perpétuité. Bon, mais Charles Quint, lui, il échoue parce qu'il n'arrive pas à manger la France et la France n'arrive pas à manger l'Empire. Hein. Charles Quint est un personnage pour lequel moi j'ai beaucoup d'admiration, hein, car il a eu le mérite d'être capable de reconnaître et d'assumer son échec et de dire non, on n'y arrivera pas. Et avant sa mort, pour être sûr de le faire, lui étant vivant, on n'est plus sûr de ce qu'on fait quand on est vivant que quand on est mort. Hein. Il a partagé son empire en deux couronnes distinctes, il n'y aura plus de couronne universelle. C'est d'un côté l'ensemble germanique, ce sera la couronne impériale, Ferdinand, de l'autre l'ensemble espagnol, mais on devrait dire hispano-italo-flamand, hein, ce sera la couronne donnée à son fils Philippe qui devient le roi Philippe II. Et entre les deux, il y a toujours la France qui est là. Ceci dans une époque où la dureté des temps, et en particulier la singularité des guerres de religion, hein, empêche toute idée de paix en Europe et s'achève par un conflit européen, la guerre de 30 ans, qui commence comme une guerre religieuse et qui s'achève comme une guerre politique. Alors, au terme de la guerre de 30 ans, à partir de 1642, 43, 44, hein, on parle de paix, à vrai dire, on parle de paix dès qu'on commence la guerre, hein, on parle d'une rencontre de tous les souverains, très dure à mettre sur pied, c'est ce qui donnera les deux congrès qui n'en forme qu'un, dit de Westphalie, de Münster et de Saarbrück. Malgré toute la volonté qu'on avait de se retrouver ensemble pour parler, on n'a quand même pas pu franchir la ligne rouge qui est de réunir dans une même salle les catholiques et l'ensemble des réformés, qu'on appelle alors uniformément les protestants. Donc, il y a deux congrès, mais qui n'en font qu'un et dont les textes ne forment qu'un. Le congrès de Westphalie, lui, inaugure un deuxième mode de paix en Europe. Ce mode de paix destiné à être pas perpétuel. Les diplomates n'emploient pas le mot, hein, sauf dans les textes des traités de paix eux-mêmes, puisque presque tous les traités de paix jusqu'à l'époque révolutionnaire commencent par l'affirmation que cette paix sera perpétuelle. Mais ça, c'est une expression diplomatique qui veut dire que ça dure quelques années. Hein. Cette paix de Westphalie repose sur un nouveau principe qui n'est pas celui de l'époque médiévale, qui est celui de l'équilibre. L'équilibre, c'est le mot français, la balance, c'est le mot anglais, hein, la balance des puissances, l'équilibre des puissances. Un système européen qui repose non plus sur une domination universelle que l'on cherche à élaborer, mais sur la coexistence de quelques très grands États qui, ensemble, vont équilibrer leurs domaines, leurs prétentions, leurs pouvoirs, leurs armées, leurs économies. Bon, un système général d'équilibre dans lequel, à côté des grandes puissances, Autriche, Espagne, France, Angleterre comme quatrième puissance, elle est toujours un peu moins européenne ou autrement européenne, on va dire, que les autres, mais Angleterre plutôt que Suède ou plutôt que Provinces-Unies, hein, on va essayer de maintenir cet équilibre et les autres puissances, en dessous, seront des puissances d'appoint éventuellement utiles dans des conflits localisés. Alors, cet équilibre mis en place en Westphalie va durer jusqu'à la Révolution française. Et il a duré. Ce n'est pas la peine de s'extasier en disant « mais la guerre a repris, on le sait bien ». Oui, il y a eu des guerres sous Louis XIV, je ne vais quand même pas essayer de vous faire croire le contraire. Mais, quels que soient les malheurs de la guerre, rituellement dénoncé, et encore à l'époque du Palatinat. Il n'y a pas eu ce retour à des mêlées européennes marquées par de tels reculs d'humanité que la guerre de Cent Ans. La mise à sac de Magdebourg ne s'est pas reproduite, et le Palatinat en 1688 ou 89, ce n'est pas Magdebourg en 1630, ou la guerre de Trente Ans dans les années 30 à 35, ces pires années. Ce n'est plus cela. C'est les guerres de Louis XIV, qui sont européennes par le jeu des alliances, ne sont que, on va dire, italo-bourguignons-hollandaises par les territoires sur lesquels où elles se déroulent, et sont conclues de manière véritablement mécanique par une reproduction en plus petit des congrès de Westphalie qui s'appelleront Nimègue, et puis Ryswick, et puis un peu plus grand Utrecht, parce que la guerre de succession d'Espagne a été plus dure que les précédentes. Et puis, à l'époque de Louis XV, il y aura encore, sous la forme aussi d'une rencontre de puissances européennes, le congrès d'Aix-la-Chapelle. Là, vous voyez, je parcours le XVIIe et le XVIIIe siècle. À chaque fois, après un conflit qui n'a jamais retrouvé les dimensions de la guerre de 30 ans, les diplomates se réunissent pour réaccorder les instruments du concert. Vous savez, le mot concert, il est très bon, il est musical. Hein. Ça, si vous avez, certains d'entre vous, joué dans des orchestres, vous savez qu'au moment où le chef d'orchestre lance le morceau, la symphonie, etc., les instruments sont tous d'accord entre eux. Le ton est juste. Hein. Le la est à 440 Hz. Hein. Et puis, dès la fin du premier mouvement, c'est plus le cas. Alors, on réaccorde. Et vous voyez les musiciens en train de toucher les petites touches et de faire des petits la discrets pour retrouver le ton. C'est ce qu'on fait à Nimègue, à Ryswick, à Utrecht et à Aix-la-Chapelle. On réaccorde les instruments dans tous ces traités. Et c'est encore le cas au début, pas à la fin, du congrès de Rastatt en 1798, à l'époque où le directoire tente de renouveler l'expérience. On rappelle les traités de Westphalie. Et dans les textes des traités qui se succèdent entre 1648, il faut dire le siècle, hein, et 1795, les traités de l'année 95, on rappelle toujours, après avoir dit que la paix sera perpétuelle, qu'elle sera établie selon les règles de Westphalie. Ce n'est plus le cas en 98. L'ensemble se désaccorde fondamentalement dans le système révolutionnaire et impérial, et alors faut tout reprendre en main en 1814-1815. Le mérite des gens du Congrès de Vienne, moi je fais partie, a priori, hein, je prétends, c'est vrai ou c'est faux, mais je le prétends quand même, avoir une vision positive de l'histoire. Et je trouve que pour avoir une vision positive de l'histoire, il faut dire du bien des gens et non pas en dire du mal. Alors moi je vais dire, ils ont bien travaillé, les gens de 1815. Et au lieu d'ironiser sur les concerts, les repas, les banquets et les fêtes qui ont accompagné Vienne pendant quasiment un an avec Beethoven qui produit ses symphonies, je vais vous dire, pendant que les rois s'amusent ainsi que leurs valets, heureusement les diplomates travaillent et font du bon boulot. Et quand je dis diplomate, vous imaginez aussitôt que j'ai une grande révérence pour Metternich, ou bien Castlereagh, ou Nesselrode, ou Hardenberg, les quatre grands, ou Talleyrand, qui réussit à jouer cette partition extraordinaire d'être non pas seul contre tous, mais seul avec tous. Il est habile, Talleyrand. Eh bien non, c'est pas à eux que je pense. Eux, c'est la partie visible. Les vrais, ceux qui travaillent derrière, c'est ceux dont on ne parle jamais. Ce sont les secrétaires qui écrivent. Hein. C'est Friedrich von Gentz qui fait le boulot. C'est lui qui rédige les textes. Et ce n'est pas un hasard s'il préside la commission finale, celle du texte, de l'acte final du congrès de Vienne. Il a de l'expérience, Gentz. Il a déjà écrit, lui, sur les pas de Kant, Kant en 95, Gentz en 1800, un projet de traité de paix européenne. Hein. Alors, Gentz, mais derrière Gentz, évidemment, les diplomates, et puis derrière les diplomates, quand même, les souverains, dont Louis XVIII, se mettent d'accord en 1815, finalement, sur un ensemble, c'est ça le concert européen, vous voyez, c'est là le contenu physique du mot, hein, sur un ensemble qui se donne un objectif, plus jamais ça, c'est banal, hein, après une guerre, on dit on n'en veut plus. Eh bien, ils font comme les autres, ils disent on n'en veut plus, et on l'aura plus. Hein. Et ils mettent en place un système qui n'est pas le vieux système de la monarchie universelle et qui n'est pas le vieux système de l'équilibre. C'est le système qui repose non pas sur le principe de l'équilibre qu'on réajuste, mais sur l'ajustement de l'équilibre avant qu'il ne se désaccorde. Ce système est mis en place par quatre textes. Alors, il faut prendre les quatre comme un tout. Et j'ai du mal à les dissocier, hein. Premièrement, le texte de la Quadruple Alliance, mars 1815, en urgence, quand Napoléon revient à l'ordre du jour. Alors là, il y a quand même danger dans la demeure. Hein. Attention, le corps est là. Il s'agit d'abord de l'exterminer. Le 9 juin, l'acte final du congrès de Vienne, avant le 18 juin. Hein, c'est une dizaine de jours avant Waterloo. Mais bon, si Waterloo n'avait pas eu lieu le 18 juin, ça aurait eu lieu le 19 ou le 25. Hein. Donc, c'est pareil, c'est la fin. L'acte final du congrès de Vienne, qui est un immense partage territorial de l'Europe, comme en 1648. On refait la carte à partir de zéro. Sauf que on respecte quand même les quatre grands États qui alors dominent l'Europe. Hein. Et puis on amoindrit celui par lequel le mal arrive toujours, c'est-à-dire la France, qu'on va rogner, qu'on va découper, qu'on va rendre ben, telle qu'elle est, bien jolie, un petit hexagone, finalement sympathique. Hein. Ensuite, il y a le second traité de Paris, je ne parle pas du premier, mais le second quand même a repris en gros le premier, qui essaye vraiment de mettre en place un système européen dans lequel la France ne puisse plus nuire, parce que malgré tout, elle est quand même, si on fait l'histoire longue, hein, si on peut remonter à Louis XIV, mais même au-delà, hein, la guerre est quand même souvent venue de la France, il faut un petit peu faire taire les Français. Et puis, ce texte, il se situe juste avant, qui lui aussi a été assez mal jugé par l'histoire, moi j'en dis du bien, des fois j'ai l'impression d'être le seul, hein. Mais c'est pas grave, bah, tant pis, j'en dis du bien, c'est la Sainte Alliance de ce tsar mystique, devenu mystique, qu'on présente comme un type devenu à moitié fou, dominé par sa maîtresse, hein, qui a une vision mais très abstraite, très théorique, hein, d'une alliance qui repose sur des fondements religieux, alors de nos jours c'est pas très à la mode, hein, et qui aurait comme objectif, finalement, d'établir une sorte d'harmonie plutôt que de paix, le mot n'a pas exactement le même sens, entre l'ensemble des souverains. Ensemble, ces quatre textes élaborent un principe nouveau dans le droit international, et celui qui le définit le mieux, c'est naturellement celui qui a tout écrit, c'est donc Friedrich von Gentz. Mais comme là, je ne suis pas capable de vous le citer de mémoire, lui, je vais vous le lire. Gentz qui décrit le système établi par les quatre textes de 1815, il le décrit en 1818 dans une correspondance qu'il adresse à un petit personnage politique. Le système politique qui s'est établi en Europe depuis 1814 et 1815, écoutez bien les mots qu'il emploie, est un phénomène inouï dans l'histoire du monde. Mais là, je trouve qu'il a raison, d'autant plus inouï qu'il en est l'auteur. Alors, il veut qu'on montre bien que c'est valeureux. Hein. En observant, il écrit, j'abrège un peu sa phrase, en observant que, au principe de l'équilibre qui a gouverné, mais souvent ensanglanté l'Europe, hein, car les guerres se sont malgré tout produites, même si elles n'ont plus été des répétitions de la guerre de 30 ans, a succédé un principe d'union générale réunissant la totalité des États par un lien fédératif. Union générale, la totalité des États, un lien fédératif. Les textes de 1815 sont tous dans cette phrase. Et cette union fonctionne. Elle fonctionne, le vrai concert du 19e, c'est cette période où il ne se passe rien, hein, qui dure de 1815 à, en gros, 1823. Cette période des petits congrès. L'historiographie générale est sévère aussi, je trouve, à l'égard de ces petits congrès, qui semblent ne servir effectivement à rien ou à pas grand-chose. Hein. C'est le congrès d'Aix-la-Chapelle, novembre 1818, qui libère la France de l'occupation militaire, c'est déjà pas tout à fait rien. Karlsbad en 1819, Troppau en 1820, Laibach, Ljubljana en 1821, et Vérone en 1822, au passage, vous voyez des petites villes d'Allemagne ou d'Italie, sous le contrôle, au moins sous le regard de l'Empire, tandis que dans le siècle précédent, les grands congrès se tiennent dans des villes hollandaises sous le contrôle, ou du moins sous le regard, de la France ou de l'Angleterre. Ça prouve que le pouvoir a changé en Europe. Ces petits congrès ont quand même un mérite, il faut le dire, c'est d'abord qu'ils ont lieu. Et oui, ils ont lieu. Les gens se rencontrent. Et se rencontrer pour parler, mais même si c'est pour aller ensemble au bal, c'est mieux que de se faire la guerre. Ça fait moins de morts. Hein. Même si le prince de Ligne est mort dans le cours des fêtes de Vienne, mais parce que le prince de Ligne était sorti pour aller voir quelques belles un peu tard le soir, il a pris froid, son âge, ça ne se faisait plus. Hein. Il aurait dû faire attention. Il n'y a pas eu de mort avec sa chapelle jusqu'à Vérone. Et à Vérone, le principe qui est adopté, c'est celui de l'intervention française en Espagne. L'Europe, en envoyant la France faire la guerre en Espagne, en autorisant la France à rétablir l'ordre au profit de Ferdinand VII, évite que se reproduise un conflit européen qui n'a pas le temps de se développer et qui n'a pas eu lieu. Alors moi, je dis, bravo les gars, grâce à vous, la paix a régné en Europe. Et puis, le système s'est désaccordé très rapidement. Sans doute, tout simplement, parce que c'était trop rapide. L'histoire, elle est bonne quand elle est lente. Dès qu'on brusque les événements, soit parce qu'on est plus intelligent que les autres, soit parce qu'on est plus belliqueux que les autres, on met du sable dans les engrenages. Hein. Et là, ça va trop vite. C'est allé trop vite. Ça a sans doute un peu monté la tête au tsar Alexandre. Ça a provoqué la méfiance des Anglais. Hein. Ça a provoqué la lassitude des Autrichiens. Et lorsque le tsar Alexandre propose que, à ces rencontres rituellement organisées, succède, à chaque fois avec des problèmes à régler, il y a quand même une agitation un peu révolutionnaire ou libérale, disons pour le moins, en Europe à ce moment-là, succède un système beaucoup plus durable, alors l'Angleterre se retire. L'Angleterre ne veut pas être engagée par une obligation diplomatique qui la ferait intervenir militairement en Europe. Elle sait ce que ça donne d'intervenir en Europe, l'Angleterre. Ça donne des dépenses gigantesques à l'époque napoléonienne, plus que des morts. Hein. Les Anglais se battent avec les soldats autrichiens, vous le savez. Hein. Ça donne les problèmes financiers également qu'elle a connus pendant la guerre de 7 ans et puis tout ce qui a précédé. L'Angleterre ne veut plus. Et puis l'Angleterre, en 1820, s'intéresse plus à l'Europe. Ce qui l'intéresse, c'est le monde. L'Angleterre est... Depuis Élisabeth, c'est le cas. Mais cette fois, c'est vrai, elle est devenue maritime. L'Angleterre, c'est une flotte. Les Anglais habitent sur leurs bateaux, qui vont plus loin que leur île. Alors, ils n'ont pas envie de se trouver engagés dans un conflit européen. Donc, ils se retirent. Les Autrichiens, eux, sont plutôt passifs et indifférents. Les Français se sentent un petit peu libérés. Les Prussiens, eux, ont, à dire vrai, d'autres objectifs de caractère national, désormais prédominants. Le système de la Sainte Alliance disparaît. Cependant, la référence au Congrès de Vienne et à l'acte final du Congrès de Vienne est constante dans l'ensemble du XIXe siècle jusqu'à Berlin en 1878. On fait référence à ce texte comme dans le siècle précédent, on faisait référence au texte du traité de Westphalie. Puis à la fin du XIXe, c'est terminé. Alors, après 1823, on est retombé dans une sorte de situation qui rappelle quand même celle du siècle précédent. On avait tenté de mettre en place un orchestre pour le concert, mais cet orchestre n'a pas trouvé de chef d'orchestre, je continue la comparaison musicale, et du coup, chacun des instruments est allé jouer dans son coin. Résultat, Ben, résultat, ça donne à nouveau des guerres qui ne sont pas celles du 18e. En plus, il y a derrière le danger révolutionnaire. Mais des guerres qui, faut le dire très fort, n'aboutit jamais à une nouvelle guerre européenne d'échelle révolutionnaire, sur le modèle français, ou napoléonien. Il n'y a pas eu de guerre européenne à propos de l'indépendance belge en 1831-32. Il y a eu un congrès à Londres, pendant les événements plutôt qu'après, c'est déjà mieux, hein, pendant les événements, au cours duquel finalement, on se met d'accord, on, c'est-à-dire l'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre, pour que la couronne de Belgique n'aille surtout pas à un prince de la famille des Orléans, donc Nemours qui avait été élu roi des Belges, hein, voit la couronne lui passer sous le nez, et en plus c'est sa sœur Louise qui récupère le nouveau roi des Belges, Léopold. Hein. Il n'y a pas eu de guerre européenne à nouveau en 1840, on va dire entre 1840 et 45, le moment le plus chaud de l'histoire internationale du 19e. Car très souvent, les Français, le matin, se réveillant entre 40 et 45, ont l'impression, en juillet 40, lorsque Thiers est encore chef du gouvernement, ou en 44, quand Guizot et Soult se partagent le gouvernement, ont l'impression que la guerre contre l'Angleterre, c'est demain. Et en 1844, on en parle relativement peu, lorsque a lieu la campagne du Maroc, Bugeaud et Joinville. Bugeaud sur l'Isly, Joinville à Tanger et Mogador. Hein. Le ton dans les journaux français, pas uniquement dans Le Siècle ou Le National, mais même dans le très modéré, respectueux et très calme journal des débats, et le ton des journaux anglais, le Times en tête, et l'appel à la guerre contre l'ennemi de toujours, et une guerre que l'on prépare. Les Russes sont mobilisés, les Prussiens sont avertis. Il n'y a que les Autrichiens qui répondent « Ah oui, attendez, on va voir, peut-être, on ne sait pas. Hein. Pas aujourd'hui, ni demain, à coup sûr. Comptez sur nous, mais attendez. Hein. » Mais à la fin d'août 1844, si vous ouvrez le National ou le Siècle, vous apprenez que la France déclare la guerre à l'Angleterre demain. On attend que Louis-Philippe signe, c'est tout. Et si vous ouvrez le Times, vous y voyez raconter pique-pente sur le prince de Joinville qui s'est comporté comme un gangster à Tanger. Hein, et il y a même un article du Times qui parle de Joinville and his gang. Hein, c'est Joinville et sa bande. C'est un peu vulgaire en anglais. Puis ce serait à Chicago en 1920, ce serait son gang. Hein, là, c'est une insulte diplomatique grave. Hein. Et puis, la guerre n'a pas lieu grâce à Guizot, qui est un homme de paix, grâce à Aberdeen, plutôt au couple Guizot-Aberdeen, grâce à Louis-Philippe, j'allais dire, je parle trop, là, faudrait me faire taire, qui est, oui, ah ben justement, faut me faire taire, hein, qui est tombé amoureux de la reine Victoria, non, à son âge, c'est plus comme ça, mais il est émerveillé, il veut maintenir la paix avec l'Angleterre. Et donc, la guerre n'éclate pas, elle n'éclate pas plus, la guerre européenne, sauf que si, elle éclate quand même encore un peu. Mais c'est pas en Europe qu'elle aura lieu, hein, lors des événements de 1854-56, lorsque la Russie s'engage contre l'Empire ottoman. Alors, il y a eu le congrès de Paris, qui est une sorte de répétition du congrès d'Utrecht, cette fois à l'invitation de Napoléon III. Et après Paris 56, ni la guerre entre l'Autriche et la France, Magenta Solferino, ni la guerre entre le Danemark et l'Allemagne, entre l'Allemagne et l'Autriche, entre la Prusse ou l'Allemagne et la France, ne dégénère en guerre européenne. Le concert des nations joue. Les guerres sont limitées. Et lorsqu'en 1878, vous voyez, j'accélère un petit peu, hein, lorsqu'en 1878, après avoir réuni en 73 les trois empereurs chez lui, à Berlin, hein, l'empereur d'Allemagne, c'est-à-dire Bismarck, réunit ce congrès des chefs de gouvernement ou des ministres des Affaires étrangères, hein, à Berlin, on procède à un rééquilibrage général de l'équilibre ancien, qui ne donnera pas les mêmes résultats. Car cette fois, la guerre, on va y aller. Ça va mettre 30 ans, elle éclate en 14. On va y aller parce que, dans le système du Conseil européen, s'est introduit un élément perturbateur et a manqué un outil fondamental. L'élément perturbateur, c'est le développement des nationalismes en Europe. Avec cet acte contre l'ordre européen commis par les Allemands, là ils sont coupables, hein, la prise de l'Alsace et des trois quarts de la Lorraine en 1871, lorsqu'ils ont vaincu la France. Ils ont appliqué un droit de conquête qui, dans les faits, était révolu dans le droit international, dans ce qu'on appelait jadis le droit des gens. Ça a provoqué la naissance, un petit peu plus tard, d'un très puissant mouvement de revanche qui se mêle au nationalisme, qui se développe en Europe dans d'autres lieux, en Serbie par exemple, et qui conduit à l'explosion de 14. Mais aussi parce que, finalement, au cours du siècle, et on a fini par s'en apercevoir, l'histoire est lente, je vous rappelle. Il faut un siècle pour qu'on comprenne les choses en histoire. C'est pourquoi, à l'échelle de la vie humaine, comme on dépasse rarement le siècle, ou quand on a atteint le siècle, on ne voit pas toujours très bien ce qui se passe autour de nous, c'est lent. On s'est aperçu qu'il manquait ce qu'on a failli commencer de presque mettre en place en 1815, c'est un outil permanent de maintien de la paix. Il n'y en a jamais eu à l'époque moderne. En 1815, il y a eu l'ébauche d'un système de congrès répétitif qui aurait un petit peu été cela. Et puis après, il n'y a plus rien eu. Alors, on s'est réunis ponctuellement. Alors, après l'explosion suivante, mais je vous rassure, je n'en parle pas, qui est celle de la Première Guerre mondiale, affrontement meurtrier des nationalistes européens, qui va se jouer en deux temps, en 14 et puis en 40. Finalement, c'est... Je ne dis pas que c'est le même conflit, on ne peut pas dire ça, mais il y a un temps de l'histoire là qui est celui des guerres. Après cela, eh bien, dans un nouveau moment de leur histoire, les peuples européens recommenceront à essayer de construire la paix au lieu de se faire la guerre et commenceront par ce qui a toujours manqué, c'est-à-dire la mise en place d'un instrument permanent de paix internationale qui s'appellera d'abord la SDN, ensuite l'ONU. Tout ça pour conclure, au XIXe siècle, ne vous y trompez pas, c'est le dernier mot, le Concert des Nations a fonctionné, car de même que la guerre de 30 ans ne s'est pas reproduite au XVIIIe, le cycle de guerre révolutionnaire et napoléonienne ne s'est pas reproduit au XIXe. Ce sont des progrès. Et finalement, l'histoire de la guerre s'accompagne de l'histoire de la paix, et l'histoire de la paix, elle progresse. Moi, je la vois positivement. Ça ne veut pas dire que de nos jours tout aille bien. C'est pas ce que j'ai voulu conclure. Voilà, merci. Je m'arrête un peu brutalement.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Pierre Bois, le Concert des Nations au XIXe siècle, dans le cadre du colloque international Guerre et politique de l'Académie des sciences morales et politiques, initié par l'académicien Jean Béchler. C'était le 18 janvier 2013. À la Fondation Simone et Cino del Duca. Retrouvez au fur et à mesure de leur mise en ligne l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.